Bonjour, bonjour. Pour les besoins d'un film, je suis parti quelques jours, je fais l'émission là-bas, à Ventrolles. Ventrolles, au-dessus de Nyons, la capitale de l'olive. Dans cette région de France où la France se fait doucement Provence, la Drôme provençale. Là-bas, monte au-dessus de Nyons, prends la route des Crêtes, cette petite route qui serpente au-dessus de la vallée. Tu trouveras cette maison où la nuit les chouettes hulottent et le crapaud violoniste t'accompagne dans tes rêves les plus fous. Sur le toit, les mésanges, les alouettes et les merles ont installé leur nid. Autour de toi, dans la campagne verdoyante et environnante de choses en hante, qui te hantent, les blaireaux, les renards, les campagnols, les chevreuils et les sangliers viennent toquer à ta fenêtre à la recherche d'un peu d'intimité. Le matin, c'est Armel, le réalisateur de l'émission, qui sort de la paille, qui met ses sabots et qui m'apporte le pain frais et les œufs directement issus du cul de la poule. Puis Eugénie, qui est avec nous et qui organise tout, se balade, vêtue de sa simple beauté. Elle va se baigner au torrent avec ses amis Manon et Corinne. Leur jeune poitrine s'ébroue. Elle s'embrasse, elle s'enlace, mais comme des bonnes camarades de 20 ans. Et puis ensuite, je me réveille et je m'aperçois que tout ça n'a pas existé. Je suis seul, je vais rejoindre un acteur belge, Benoît Poulvord, sur ce tournage et la réalité sera, hélas, moins féminine. Le monde sera féminin, nous l'espérons tous. Et le 21e siècle sera spirituel. À tout de suite.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
J'en mangerai.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Le dispositif de l'émission ce matin dépasse en luxe tout ce qu'auraient pu imaginer les plus grandes radios de France. J'ai eu des appels de France Inter, de RTL, qui me disent « Comment faites-vous pour être à la fois dans la Drôme et à Paris ?» Je ne peux pas vous expliquer. C'est un déploiement, une débauche, peut-être parce qu'on appartient à un très très riche banquier qui a décidé de tout envoyer sur cette émission. Donc là, je suis dans la Drôme et je salue Thierry Paret, que je vois sur un appareil de téléphone et qui va nous dire un peu les nouvelles de 7h. Salut mon Thierry.
Radio Nova.
Salut Edouard, salut tout le monde. Selon Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, deux Français sont portés disparus après l'attentat de Londres samedi soir, au cours duquel un autre Français a été tué, hein, je vous le rappelle. Jean-Yves Le Drian a également indiqué qu'il y avait 8 blessés français, dont 4 qui sont toujours dans un état grave à l'heure qu'il est. La police britannique a dévoilé hier soir l'identité de 2 des 3 assaillants qui ont fait 7 morts en tout sur le London Bridge et au Borough Market. Il s'agit de 2 hommes de 27 et 30 ans, connus des services de sécurité, au moins d'entre eux en tout cas. L'enquête, elle, se poursuit pour déterminer l'identité du 3e assaillant. À Brasilia, le palais présidentiel a pris des allures de bunker assiégé. Isolé, reclus, impopulaire, le président brésilien Michel Temer est en sursis. Le scandale retentissant provoqué par la révélation, c'était à la mi-mai, d'une conversation qu'il a tenue avec un entrepreneur véreux, a plongé le pays dans une nouvelle crise politique. Le tribunal supérieur électoral doit siéger. À partir de ce mardi, il peut inculper le président et de fait suspendre son mandat. Les Français de l'étranger ont déjà voté pour les élections législatives. Les candidats du mouvement d'Emmanuel Macron sont arrivés en tête dans 10 des 11 circonscriptions concernées. Quand on regarde dans le détail, c'est intéressant. On notera surtout une participation très faible, hein, 19,1% seulement. Voulant faire de l'humour à propos des Kwasa Kwasa, ces frêles embarcations comoriennes, Emmanuel Macron a déclaré, vous avez peut-être suivi cette affaire le week-end dernier, qu'elle servait surtout à amener du comorien à Mayotte et non pas à pêcher. La polémique continue de prendre de l'ampleur puisque le ministre comorien des Affaires étrangères exige des excuses du président français, jugeant sa plaisanterie entre guillemets choquante et méprisante. Emmanuel Macron a répondu en prenant l'apaisement. L'animateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, a été couronné pour la 4e fois consécutive du Gérard du pire animateur au cours des 11e Gérard de la télévision, qui remet des prix, factices aux pires animateurs et programmes. Et Nora Malagré, qui vient de quitter la même émission, a reçu, elle, son 2e Gérard de la pire animatrice. La dernière ligne droite de Roland Garros avec le début des quarts de finale aujourd'hui. Chez les femmes, la Française Kristina Mladenovic sera opposée à la Suissesse Timea Bagzinski. Et toujours chez les femmes, le 2e quart de finale du tournoi opposera aujourd'hui la Lettonne Jelena Ostapenko à la Danoise Caroline Caroline Wozniacki. On notera qu'il y a deux Françaises en quart de finale. Hein. Il y a aussi Caroline Garcia qui a battu hier Alizé Cornel, jouera demain son quart de finale. Et deux Françaises en demi-finale de Roland-Garros. On n'a pas vu ça depuis 1994. Et puis, un dernier mot quand même chez les hommes aussi. Il n'y a plus de Français, mais il y a quand même des matchs très importants et très intéressants. Le premier opposera aujourd'hui l'Espagnol Rafael Nadal à son compatriote Pablo Carreño Busta. Et puis le Serbe Novak Djokovic, lui, sera opposé à l'Autrichien Dominic Thiem.
C'était bien le journal ce matin, j'ai appris des trucs. Vous savez qu'Alizé Cornet et Mademoiselle Garcia, elles se détestent. Tout le monde se demandait, est-ce qu'elles se sont serrées la main finalement?
Elles se sont même fait la bise, mais une bise froide.
Bon. Oui. Mais alors que chez les hommes, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion qu'il y ait une finale, qu'il n'y ait que des femmes et plus d'hommes
Non, je constate surtout que les hommes ne se font pas la bise. Et ça, c'est dommage.
Non, mon vieux... on peut dire que les hommes ont la niaque, ça te mène là. Les hommes ont la niaque. La niaque de ne pas gagner alors que les filles, elles ont le fighting spirit, comme disent les Anglais, elles y vont. Elles sont dans la compétitivité.
Ça très souvent. C'est tout à fait vrai, j'étais avec un Anglais hier, il me disait « fighting spirit ». Vous voyez, donc c'est tout à fait vrai ce que vous dites, Tatman. Je vous avais dit ce mot, j'imaginais Brasilia qu'il avait eu un entretien, le président Temer, avec un entrepreneur véreux. Je voyais bien ces images des années 70. Bonjour, je voudrais entreprendre, mais ça va être un peu véreux. Aucun problème, asseyez-vous là, qu'est-ce que je vous sers. On voyait bien la scène. Et puis il y a cette idée que dans le journal très sérieux, où il y a les drames du monde, il y a le président brésilien, il y a le mot « Enora Malagré », tout à coup, ça devient en France.
Il y a le mot « Gérard » aussi, « Gérard ».
Les Gérards. Oui, mais vous, brique, Gérard, en fait. Vous êtes obsédé par Depardieu, Atmen.
Non, un petit peu, mais le mot Gérard.
Si vous avez des petites photos de Gérard Depardieu en slip autour de vous, on sait très bien.
J'ai retrouvé des films même.
Je vous vois, tout va bien.
Vous me voyez, on est avec Thierry Paré, on est avec vous là, on est très heureux.
À partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va le faire à l'ancienne, on va le faire à la tradie. On va mettre de la musique ou de la pub, Armel, ce mélange des. Pub, ça fait toujours plaisir, ça marche toujours. Et ensuite, je vais vous demander quelques connoisseurs, une petite revue, des petites ambiances de presse de ce matin, tout de suite.
Ah d'accord.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h.
2 heures d'émission, mais c'est beaucoup trop court.
L'équipe Paris est renforcée puisqu'à côté d'Atmen Khelif vient d'arriver Marie Missé. Bonjour Marie. Marie, vous avez ce ton de voix de quelqu'un qui a été dans une petite cahute, a épluché la presse papier,
exactement,
a épluché Internet, a épluché des oranges.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux ce matin?
Grande tristesse, c'est la fin des disco clubs, je ne sais plus parler, des discothèques en campagne. C'est un grand supplément dans l'époque du Monde. 2 pages pour nous dire qu'elles ferment toutes les unes après les autres, qu'elles s'appellent le Tempo, le Macumba.
On a tous connu un Macumba.
Le Sphinx.
Exactement.
Il y a beaucoup de Sphinx.
Il y a un petit témoignage comme ça.
Non, non.
Si,
on dit non à Atmen.
Vous dites, comme par hasard, tiens, que ça va nous
alors,
changer.
Alors, pourquoi elle ferme ces boîtes?
Elle ferme pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les jeunes ont peur de perdre leur permis. On met les gendarmes à côté des ronds-points, juste à côté des boîtes de nuit.
Il y a les capitaines de soirée, tout ça.
Eh bien, peu de Sam acceptent de ramener leurs amis. Et puis l'autre chose, c'est que pour rencontrer des nanas ou des mecs, eh ben maintenant il y a les smartphones, donc on n'a plus besoin d'aller suer le samedi
puis
soir
les sites de rencontre,
sur la piste du Macumba. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire par smartphone.
Alors combien il y a des chiffres, il y a des statistiques sur les fermetures.
La moitié d'entre elles ont fermé ces 30 dernières années. Alors voilà, c'est un petit peu triste, il y a un petit parfum de fin de quelque chose. L'article se termine sur les mots d'une ancienne tenancière de Macumba qui dit « Bah dites bien dans votre article que l'établissement est à vendre, ça pourrait faire des super locaux pour un supermarché. »
Alors c'est étonnant, on croirait qu'on s'est concerté. Moi je voulais vous parler du Capricia qui est à vendre à Dombes. Ça m'avait frappé là parce que j'ai l'actualité régionale, c'est dans l'Ain. Si vous avez 320 000 euros, vous pouvez acheter l'ex-Capricia 275 mètres carrés de surface. Quelle n'a pas été la surprise de Claudette, qui coule maintenant une retraite heureuse à Guérin dans l'Ain, de s'apercevoir dans les années 80, après qu'elle ait vendu le Capricia, que sa discothèque s'était transformée en club échangiste. Pourtant, dit-elle, j'habitais
sur la route de quoi? De Valence?
Elle dit, pourtant, j'habitais dans l'appartement juste au-dessus. Un peu comme dans la cage aux folles,
je ne savais pas que c'était une boîte de...
Comme Michel Serrault dit ça à Galabru. Mais dites-moi, la cage aux folles, là, ça vous a... Mais quoi, je ne suis pas au courant. Alors, un soir, les patrons ont eu un problème avec l'arrivée d'eau. Je suis descendu et c'est là que j'ai compris. Elle a dû voir des choses absolument épouvantables.
C'est comme quand il y a des meurtres à côté de chez soi. On dit toujours, oh, ils avaient l'air si gentils.
Oui, le type qui a tué, c'était un voisin toujours serviable.
Voilà, c'était d'une boîte de nuit parfaite.
On pouvait toujours emprunter un couteau, un revolver ou une scie sauteuse. Alors, il y a une photo, si vous achetez...
si vous achetez Le Progrès, où il y a une très belle photo. C'est une ancienne école construite en 1893, devenue Club Libertin, le Capricia. Vraiment, je pense que ça vaut le coup.
Tout était dans le nom. Mais moi, je voulais dire, c'est triste quand même ces boîtes de nuit qui ferment. C'est toute une enfance, toute une...
C'est un petit peu triste, la fiesta, le macumba.
Comme ça, de disco, non mais de disco. Oh,
tristesse, je le gardais là pour autre chose, mes
le
enfants.
Le Copacabana.
Bah si, c'est un truc qui s'en va. C'est
comme choses en as.
La dernière séance de Di Michel.
Ça fait de la place pour autre chose. Qu'est-ce que vous avez vu, Atmel, vous ?
Moi, je dis qu'alors Bob Dylan a reçu, mais vraiment in extremis, son enveloppe et son prix Nobel, parce qu'il a envoyé son discours
Alors, c'est vrai qu'il y avait toute cette polémique. Bob Dylan avait eu le prix Nobel de littérature. Déjà, des gens étaient furieux, disant « ça n'est pas de la littérature. Mm-hmm. The answer, my friend, is blowing with the wind. » Moi, je te l'écris, ça, que la réponse souffle avec le vent.
Ah, oui, d'accord. Okay.
Ensuite, il l'avait reçu. Et il n'avait pas répondu du tout. Les types s'étaient un peu vexés, le jury Nobel.
Et en fait, non, il a bossé. Il paraît qu'il a envoyé en vidéo un discours extraordinaire citant Cervantes, Herman Melville et Shakespeare. C'est...
Il va avoir les foies.
Voilà,
donc, il n'est pas allé recevoir son prix, contrairement au magnifique discours de Patrick Modiano qu'il avait eu 2 ans auparavant. Et on peut voir sur Internet la réception du prix Nobel de littérature par Patrick Modiano. C'est un moment de grâce incroyable.
Édouard ?
Oui.
Vous n'êtes pas habillé pareil quand vous êtes loin ?
Parce que vous me voyez par FaceTime.
Oui.
C'est parce que vous savez,
c'est
à la campagne.
Il y a un pyjama.
Non, pas du tout. Ce sont 2 pulls l'un sur l'autre. Non, je n'ai pas de pyjama. J'ai corps entièrement nu avec un peu de parfum. Un
parfum comme
5, d'ailleurs.
Avec un coup de rouge,
non,
comme disait.
Je vais
avec
vous
un coup de rouge, comme disait Marilyn Monroe.
À la campagne, les soirées sont. Les matinées sont un petit peu fraîches. Mmh. Armel n'a pas encore allumé le feu.
D'accord.
À tout de suite.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h, oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Vous vous réveillez et vous vous dites comme moi, je connais mal mon pays. Parce que lorsque je vous annonçais tout à l'heure que j'étais dans la Drôme provençale, je sens bien que certains d'entre vous, à part l'endroit où ils sont nés, où ils habitent et où éventuellement ils partent en vacances, vous ne connaissez pas les autres régions. Excusez-moi d'être désagréable dès le matin. C'est pour ça... Pour nous aider tous, qu'on a fait appel à Laurent Petit. Laurent Petit est un grand spécialiste psychanalyste des villes. Il est à la tête de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Laurent Petit, bonjour.
Bonjour.
Laurent, lorsque je vous ai dit Drôme provençal, Valence, oui. Nyons, capitale de l'Olive, ça a tilté pour vous qui êtes un spécialiste de toutes nos régions.
Oui, on a étudié cette région de la Drôme, mais aussi de l'Ardèche il y a quelques années. Et étymologiquement, la Drôme est intéressante parce qu'on retrouve la Drôme, par exemple, dans aérodrome, boulodrome, vélodrome, avec cette idée de décollage, de lancer de gens vers le ciel, quoi, vers les étoiles. Ouais. Impression qui se confirme quand on sait que Drôme, en néerlandais, veut dire rêve, ce qui fait que beaucoup de Néerlandais ont été attirés par la région.
Je l'ignorais. Est-ce que fait que Drôme apparaisse aussi dans Dromadaire conforte vos propos ?
Oui, alors ça c'est intéressant effectivement, parce qu'on avait essayé de trouver une connexion entre la Drôme et l'Ardèche, parce que c'est deux régions très rivales, avec d'un côté très tonique chez la Drôme, accentué par le Mistral hein, qui pousse les gens à décoller, et dans l'Ardèche, on a mécaniquement l'art de la Dèche qui se met en évidence, l'art de la Dèche, qui montre l'inventivité d'un peuple qui a inventé plein de choses, dont la montgolfière, et aussi cette capacité à tailler les montagnes en terrasse pour y gagner en des terres cultivables. Donc on avait fait une synthèse de l'art de la Dèche et de la Drôme avec le concept de Drôme-Ardèche. Drôme-Ardèche, Dromadaire, on était sur une région à deux bosses qui était intéressante.
Donc ça vient de là, en fait. Oui, donc vous confirmez que ça vient bien de là, le mot Dromadaire.
Dromardèche, Dromadaire. Bon, on en retrouve cet animal et cette façon de sculpter une région avec deux bosses dans le désert, mais malheureusement, à cause des vents dominants là-bas, les montagnes se sont effondrées, mais c'était l'idée de départ.
Édouard ?
Oui, Atmen ?
Beaucoup de courriers pour demander les références universitaires de ce monsieur.
Monsieur, s'il vous plaît, on est entre gens
bien
de confiance.
Sûr. J'ai écrit La ville sur le divan, hein, publié aux éditions de la Contre-Allée. Ça résume un peu l'essentiel de nos travaux.
D'accord.
Voilà, Atmen, pardon, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont dans le sérieux, ça évidemment, vous qui venez du spectacle, ça vous échappe. Laurent Petit, merci, j'ai l'impression qu'on comprend mieux ces deux régions. Est-ce qu'il y a un trait de caractère commun aux habitants de la Drôme ou de l'Ardèche ?
Bah, l'art des choix est besogneux, hein. Il travaille énormément, il invente, tandis que le dromois se laisse porter par le vent, il essaie de décoller, et puis il arrive assez vite, assez bien, parce que c'est une région assez tonique finalement, qui se débrouille bien économiquement parlant. Mais merci assez ventilée, beaucoup. C'est-à-dire que c'est des gens qui restent pas longtemps parce qu'ils sont emportés par le vent, par le mistral qui est très fort dans cette région.
Je vous le confirme, je viens de voir deux personnes passer là par la fenêtre.
Voilà, merci, ils sont emportés beaucoup par le vent.
Oui, c'est tout à fait confirmé. C'est rare quand les propos et les actions, vraiment ce qu'on constate de visu et ce que dit l'expert Concorde, c'est très rare de nos jours, parce qu'il y a beaucoup d'experts à la télévision qui disent des choses qu'on ne constate pas. Je vous remercie, parce que vraiment, je vois ce que vous dites, Laurent Petit.
Bah, et merci, Edouard, j'ai envie de vous dire bon vent.
C'est très fin, c'est très frais. Et un peu d'humour ne nuit pas, Laurent Petit. Dieu sait que par les temps qui courent.
Je ne sais pas ce qui m'a pris. Excusez-moi.
Non, c'est une folie. C'est une folie totale. Vous êtes toujours à l'Estac, à côté de Marseille, ou pas ?
Actuellement, oui, exactement. J'ai un paysage fantastique.
Vos laboratoires sont là. Merci. On n'hésitera pas à vous rappeler, Laurent Petit. Merci pour toutes ces lumières.
N'hésitez pas, Edouard.
Et tant pis pour les tristes cires.
Oui, j'ai compris.
Une très belle journée à tous.
Bien, il termine bien ce morceau, il y a un côté assez... La chanteuse s'est arrêtée, l'instrument continue un peu, donc je pense que comme ça peut lui permettre de minuter plus pour les temps de passage. Ça sème, je vous expliquerai le truc. Pendant ce temps-là, Thierry Paret vient d'arriver, nous en sommes au troisième café dans notre maison de la Drôme. Le vent souffle et je voulais vous faire partager ce moment.
C'est un café au filtre ? C'est comment il est le café ?
Oui, non, on le fait nous-mêmes, si vous voulez. Ah, on a un moulin à café. Oui. On est allé dans les champs de café, Eugénie y est allée. Elle secoue, vous savez, les arbres caféiers. Ensuite, on ramasse. Ensuite, enfin, c'est tout. On les torréfie nous-mêmes. Enfin, c'est vraiment à l'ancienne. C'est pas du tout comme à Paris. Hein. N'hésitez pas à Paris à te mettre du bois ton coup ici.
D'accord, j'ai compris.
Le journal de 7h32.
Radio Nova.
Dans 5 jours, le premier tour des élections législatives. Les Français de l'étranger ont déjà voté. Les candidats du mouvement d'Emmanuel Macron sont arrivés en tête dans 10 des 11 circonscriptions concernées. Alors la participation, ceci dit, est très faible, hein, 19,1%. Après les pseudo-révélations...
Oui, mais attention, c'est pas des chiffres comme en métropole. Les Français de l'étranger, ils habitent très loin du bureau de vote. Ils habitent au milieu de la forêt. Ils habitent quand ils votent...
Ou à Londres aussi.
Vous rendez pas compte. Oui, mais à Londres, ils habitent pas dans Londres. Ils habitent très souvent dans un bateau.
On peut avancer que La République En Marche se détache quand même un tout petit peu.
Bon, Asmen, c'est pas parce que j'ai des conneries que vous devez en dire aussi.
Non, mais c'est la vérité, c'est pas des conneries.
Après les pseudo-révélations d'un avant-projet de loi consacré au Code du Travail, hein, qui aurait fuité dans la presse hier, les syndicats vont recevoir aujourd'hui la feuille de route officielle du gouvernement. Emmanuel Macron sollicitera ensuite l'autorisation du Parlement entre le 24 et 28 juillet prochain pour réformer le travail par ordonnance. Et puis ensuite, l'objectif, évidemment, c'est de les adopter en Conseil des ministres. Et ça, ce sera le 20 septembre prochain. Selon Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, deux Français, aussi étonnant que ça puisse paraître, deux Français sont portés disparus après l'attentat de Londres samedi soir, au cours duquel un autre Français a été tué. Jean-Yves Le Drian a également indiqué qu'il y avait 8 blessés français, dont 4 qui sont toujours dans un état grave. La police britannique a dévoilé hier soir l'identité de 2 des 3 assaillants qui ont fait 7 morts en tout, hein, sur le London Bridge et à Borough Market. Il s'agit de 2 hommes de 27 et 30 ans, dont 1 est connu des services de sécurité. L'enquête se poursuit pour déterminer l'identité du troisième assaillant. À Brasilia, le palais présidentiel a pris des allures de bunker assiégé, isolé, reclus, impopulaire, en sursis. Le président brésilien Michel Temer est en sursis, justement. Le scandale retentissant provoqué par la révélation, c'était à la mi-mai, d'une conversation qu'il a tenue avec un entrepreneur véreux, a plongé le pays dans une nouvelle crise politique et le tribunal supérieur électoral doit siéger. À partir d'aujourd'hui, il peut inculper le président et de fait suspendre son mandat, carrément. Envergure totale un peu plus de 117 mètres, longueur totale près de 73 mètres, soit plus qu'un terrain de football, hauteur 15 mètres au-dessus du sol. Mais de quoi parlons-nous? Du plus gros avion du monde, un géant des airs pourvu de 6 moteurs de Boeing 747, conçu pour un poids total au décollage de près de 590 tonnes. Il a été présenté dans le désert californien. La dernière ligne droite de Roland-Garros, avec le début des quarts de finale ce mardi. Chez les femmes, la française Kristina Mladenovic sera opposée à la Suissesse Timea Bagzinski. Toujours chez les femmes, le deuxième quart de finale opposera aujourd'hui la Lettonne Jelena Ostapenko à la Danoise Caroline Wozniacki. Et puis chez les hommes, les deux premiers quarts de finale aussi, aujourd'hui. Ils opposeront d'abord l'Espagnol Rafael Nadal à son compatriote Pablo Carreño Busta, et puis le Serbe Novak Djokovic à l'Autrichien Dominic Thiem.
Dites-moi, j'y pense, Thierry Paret, oui. Vous connaissez cette région, parce que je suis juste à côté du Mont Ventoux.
Je connais les gorges de la Drôme, là. Il y a des gorges.
Vous êtes parce que vous faites du vélo, vous.
Ouais. Ouais,
parce
ouais.
que là-bas, vous savez, c'est vraiment la capitale du cyclotourisme. Quand je suis arrivé à travers autour du Mont Ventoux, il n'y avait que des types en orange, en rouge, en train de faire du vélo.
Après, on n'est pas obligé de s'habiller en orange ou en rouge pour faire du vélo non plus. Hein. On peut s'habiller normalement. Hein.
Merci.
Oui, Edouard, tout le monde a oublié, c'est quand même le 6 juin aujourd'hui. Il y a 73 ans, les Anglais, les Canadiens et les Américains venaient nous libérer quand même.
Eh bien, vous faites bien de le rappeler.
C'est la journée de la langue russe aussi.
Dans cette histoire de vous replacer ma petite anecdote de ce GI qui a perdu sa gourmette. Vous savez,
oui, merci. On va rejoindre Jacques souvent dans la rue.
C'est pas la loose du tout. Vous parlez de la loose.
En fait, vous êtes tombé sur moi parce que je devais commencer à tracter à 7h du matin. Et j'étais en retard. Et en plus, j'étais toute seule. Et en plus, j'ai pas pris de petit-déj. Mais sinon, ça va.
Mais vous êtes
Jacques souvent avec qui êtes-vous?
Mais vous êtes Cécile Duflot.
Oui, c'est moi. Mais si.
Cécile Duflot, l'ancienne ministre du Logement.
C'est ça. La candidate aux législatives qui traque la nation à 7h15 du matin sans avoir pris de petit-déj.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Cécile Duflot?
Ben, il se passe que tout va bien maintenant. Lucien mais est alors... arrivé avec les tracts, mais sinon, j'étais toute seule. Et donc
vous êtes arrivée...
Jacques m'a vue comme une pauvre.
Alors, qui, Cécile Duflot, donc je rappelle... Donc, vous êtes... donc ça, c'est formidable de voir comment ça se passe, une campagne, alors.
Voilà.
Donc, vous arrivez, vous donnez rendez-vous à...
À 7h, à Jim et à Lucien.
Alors, Lucien et Jim qui sont en retard, ça, ils vont prendre ses verres. Ouais. Ils vont être virés des verres. Et dites-moi, ils sont bénévoles ou ils sont... Ou
ah bah, pas... Tout le monde est bénévole.
Alors, est-ce qu'on peut engueuler...
Dans cette campagne, il n'y a que des bénévoles. Bah, non,
c'est
pas
un
du
souci.
Tout.
Voilà, on ne peut pas engueuler un bénévole. Il vaut mieux payer quelqu'un et bien l'engueuler.
Non, en fait, il vaut mieux engueuler personne. Surtout qu'en fait, moi aussi, j'étais pas en avance. Et que du coup, je suis tombée de mon lit dans mes vêtements, que je n'ai pas pris de café, que je ne suis pas très réveillée. Mais j'essaye de ne pas être trop de mauvaise humeur avec vous.
Je vous assure, vous avez l'air de très bonne humeur. J'aime bien l'image de tomber de son lit directement dans ses vêtements.
Bah, c'est exactement ce qui s'est passé.
C'est une vraie organisation, c'est qu'il faut laisser ses vêtements en fait, suspendus avec juste une ouverture pour le corps. Enfin, c'est très compliqué.
C'est ça, il faut bien viser avec les pieds.
Oui, parce que sinon on tombe dans les vêtements de quelqu'un d'autre.
Non, mais si on met les deux mêmes jambes dans le même trou de la culotte, la journée ne se passe pas très bien.
Ah oui, culotte, puis pantalon, puis chaussures. Oui, c'est quand même c'est un truc du concours Lépine. On pourrait essayer de trouver
un système. C'est dur de faire de la politique, je vous jure.
Ça commence le matin, d'avoir des idées dès le matin. Et alors là, vous allez tracter à Nation, il y a un marché ce matin, il y a quoi?
Non, pas du tout, il y a les gens qui prennent le RER.
Donc vous êtes à l'entrée du RER?
Voilà, moi je suis candidate d'un petit bout de Paris, et en fait c'est très compliqué de pouvoir parler aux gens qui peuvent vraiment voter pour vous, parce que tout le monde se balade dans Paris. Quand vous allez au Café à Nation, vous n'habitez pas forcément à Paris même. Et donc on essaye de le faire le matin tôt avec les gens qui partent travailler. Du coup,
alors souvent ils sont comme vous, ils sont rentrés, ils ont mis les deux pieds dans la même jambe, donc ils sont pas de très bonne humeur avant d'aller travailler.
Et bien je vais vous dire, on le fait le matin et le soir, et bizarrement les gens sont plus cool le matin que le soir, alors je croyais que ce serait l'inverse.
Est-ce que vous voulez dire que les gens préfèrent aller travailler que retrouver leur famille?
Non, je ne veux pas dire ça, je ne tire pas de conclusion de cette expérience empirique. Et je ne veux que personne se fâche avec cette famille, je veux que tout le monde s'aime. Moi aussi j'aime
c'est
tout le monde, ça va bien.
C'est un très beau programme. Et comment ça se passe? Donc, vous donnez un tract en disant à chaque fois, je suis votre...
Vous voulez que je vous le fasse en direct?
Avec grand plaisir.
Je vous le fais avec ma voix normale. Bonjour, Cécile Duflot, je suis votre députée si vous êtes du quartier. Je le fais bien. Hein. En fait, je l'ai fait environ 2 500 000 fois depuis 5 semaines.
Alors, beaucoup de jeunes se lancent dans la politique sans savoir la réalité de ce métier.
Eh bien oui, mais en même temps, j'aime bien parce que finalement, vous êtes confrontés à la réalité. Le meilleur coup, c'est quand même... Le mec qui prend le papier et qui dit « Ah non, je la déteste ». Et je dis « Bonjour, c'est moi. Faites-vous du bien, passez vos nerfs, c'est le matin ».
Est-ce que vous avez droit à des selfies, des trucs comme ça?
Ouais, plein. Et là, par exemple, je ne suis pas du tout maquillée, à peine coiffée. Donc, c'est le moment où tu te dis « Et tout ça va partir sur les réseaux sociaux. On va dire « T'as vu la gueule de Duflot ». Voilà.
Et le vent.
Mais les gens sont gentils, non?
Et dites-moi, est-ce qu'il y a des... Il y a les fameuses infos qui remontent. Est-ce que les gens ont le temps de vous dire des petites choses? Tiens, est-ce que vous avez pensé à ça? Faudrait faire ça.
Oui, alors plein de choses. D'abord, des choses du quartier parfois, mais surtout. Franchement, il ne se passe pas une journée sans quelqu'un me dise « Ah bah, je vous connais, vous, grâce à vous, mon loyer a baissé ». Et ça, c'est hyper, hyper réconfortant. Bah, voilà, c'est pour ça que j'ai fait de la politique, et donc ça, c'est très chouette.
Ah bah alors, c'est agréable. Est-ce qu'à votre avis, il y a certains élus où ne peuvent plus aller dans la rue, se feraient trop engueuler?
Bah peut-être. Moi, ça m'est encore jamais arrivé. J'essaierai d'arrêter avant que ça m'arrive. Quoi. En même temps, il y a plus de pierres à Nation, donc je ne pourrais pas trop me prendre des pierres.
Bon, mais vous avez l'air d'aimer ce qu'on appelle le travail au terrain, Cécile
Duflot. Oui, en même temps, je vais être franche avec vous, ça fait 5 semaines. Oui, ça, c'est la 6e semaine que je fais ça tous les matins et tous les soirs.
Entre les deux, vous allez vous recoucher? Non.
Non, même pas. Non, entre les deux, on prépare les meetings, je rencontre des gens. Non, ça dure toute la journée.
Et j'ai l'impression que vous pouvez vraiment compter sur Lucien et Jim, ces deux bénévoles solides.
Ouais,
gaillards.
Mais oui, en plus, Lulu, il est super. Eh ben, ils sont là tous les deux.
D'ailleurs. Ouais, ils sont partis là.
Vous pouvez pas les voir, mais il y a Lucien et Jim devant moi, devant la bouche d'entrée du boulevard Voltaire. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent venir tracter avec nous, je lance un appel solennel. Venez, c'est sympa, je vous offrirai un café vers 9h15 parce que moi aussi j'ai la dalle.
Vous êtes habillée comment ce matin, Cécile Duflo? On va vous demander de vous décrire sur vos vêtements sur un petit fond musical.
Alors,
Cécile Duflo est à l'entrée du métro Nation. Oui.
Brune, plutôt pulpeuse, un chemisier noir avec des pois blancs, une veste blanche parce que j'ai pas trouvé mon gilet, un jean, et normalement j'ai des chaussures civilisées, mais là j'en pouvais plus, donc je suis tombée dans mes baskets.
Merci beaucoup, Cécile Duflo.
De rien.
On vous laisse aller tracter devant Nation. Bonne campagne. C'est aussi ça, la politique. Une femme avec des morceaux de papier à la main dans une chemise à pois noirs et blancs devant une station de RER. Les infos descendent, les infos remontent, les échanges, les selfies, les plaintes, les joies. Et puis Lucien et Jim qui sont là, à la fois soldats et mannequins, à la fois GI et catcheurs. Lucien et Jim sont de toutes les campagnes. Déjà, avec René Dumont en 1960, au début du mouvement écologiste, ils étaient là, Lucien et Jim. Jim, cet Américain international qui était venu se battre en 1936 aux côtés des antifranquistes et de tous les combats. Quant à Lucien, ancien membre du Parti communiste français puis du Front national, passé par les Républicains et le Parti socialiste, Lucien en a croqué. Aujourd'hui, ces deux mercenaires sont à la solde des Verts. Salut, belle journée à tous. Bravo, au revoir.
7h, 9h, plus près de toi.
Ouais. Karim Baila, le grand reporter qui est un ami à nous, nous a dit qu'il est dans une sorte d'aventure très étonnante. Il est à la frontière libano-syrienne en ce moment. On va en savoir un petit peu plus sur ce qu'il fait ce matin là-bas. Karim ?
Oui, bonjour Edouard.
Karim, vous êtes dans une chambre d'hôtel, là, vous êtes au Liban et vous essayez de passer en Syrie ?
Oui, écoutez, j'ai entendu que vous aviez très froid. En tout cas, moi, ce matin, j'ai découvert, malgré le fait que je me sois badigeonner de crème anti-moustique, eh bien, je me suis fait littéralement bouffer par les moustiques, Edouard, et je vous prie de me croire, ici, ils sont coriaces.
Alors, c'est bien parce qu'on voit un petit peu les coulisses de plusieurs métiers. On a compris que la politique, c'était aussi du tractage à la sortie de métro. Le grand reportage, c'est aussi la lutte contre les insectes et la vie de tous les jours.
Voilà. Donc ça, c'est
comme le grand reporter Richard Kapuscinski, le Polonais spécialiste.
Malgré le fait que je me sois fait un beau bronzage à Bilbao hier, ils m'ont saccagé ce bronzage avec des boutons partout. Mais bon, ça, c'est la petite
anecdote. Alors, on vous écouterait parler de votre corps pendant des heures, bien sûr, Karim. Mais bon, racontez-nous un petit peu ce que vous faites à cette frontière.
Écoutez, je suis à la frontière syrienne où j'ai été à la rencontre de familles qui ont fui la guerre pour un reportage que j'ai démarré en 2011 pour les Inrocs. Vous vous souvenez, ce reportage que je réalise aujourd'hui qui maintenant a pris de l'âge, s'appelle Aller-retour. Il raconte l'exil de milliers de familles qui ont fui la Syrie et en 2011, dans le sujet sur les Inrocs, vous pouvez retrouver sur leur site qui s'appelle Carnet de route en Syrie, eh bien, on avait raconté ces fondamentalistes à la barbe fournie, ces djalabistes, comme les surnomme mon ami Bouchetan Marseille, qui ont été chassés, braqués par ces fondamentalistes pour installer leur base. Et puis, on a vu la naissance de Daesh. Voilà, vous pouvez retrouver. Donc à l'époque, j'étais avec ces familles persécutées qui n'avaient d'autre choix que de s'exiler. Ensuite, ce reportage m'a amené à la frontière entre la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, où je suis, vous verrez dans ce reportage que vous verrez prochainement sur la chaîne parlementaire, je pense, produit par Yemaya Productions. Eh bien, je suis Mireille, une veuve qui porte ses 5 enfants à bras le corps, qui marche de frontière en frontière entre la Hongrie, l'Autriche. Et pour rajouter à son désarroi, voit s'élever devant elle des murs et des barrières de barbelés érigés par la Hongrie. Alors vous suivrez le témoignage terrifiant de cette maman veuve avec ses cinq enfants. Et puis aujourd'hui, Edouard, retour au berceau. Au moment où je vous parle, eh bien, la bataille de Raqqa a bel et bien démarré selon la presse libanaise. C'est une espèce de consortium entre plusieurs coalitions, les forces gouvernementales, mais aussi l'Alliance arabo-kurde et la coalition internationale anti-Daesh, eh bien, sont en train de lancer cette bataille, cette opération pour récupérer ce fief de l'État islamique. Et donc, ces familles ont bon espoir de revenir au Berkaou. Et donc, vous verrez, je suis tout ça.
Alors, la Karim, à l'instant où vous nous parlez, là, vous êtes en train de couvrir ce conflit, vous êtes toujours sur le chemin de l'exil de ces familles syriennes.
Oui, avec ces familles. J'ai rencontré ces familles. L'info que je vous donne, c'est que ces familles sont en train de retourner en Syrie.
Donc, il y a des familles qui étaient parties, qui étaient arrivées jusqu'où, qui étaient revenues jusqu'en Europe,
en Allemagne,
et qui ont décidé de rentrer en Syrie. Pour quelles raisons, les familles?
Pour des raisons tout à fait normales, puisqu'effectivement, elles ont fui le pays parce qu'elles ont été persécutées par l'État islamique qui les a chassées, comme je le raconte.
Non, mais la route retour, vous me dites que ces familles reviennent en Syrie.
Aller-retour, le reportage.
Et alors, pourquoi ces familles reviennent en Syrie? C'était ça, ma question.
Ben, elles reviennent chez elles, Edouard.
Parce que ça s'est un peu calmé dans les zones où ces familles vivaient.
Que visiblement, la coalition est en train de déloger Daesh. Et donc... Daesh avait pris leur maison et maintenant, puisque cette opération qui s'appelle la bataille de Raqqa, plus d'autres batailles à Alep, etc., ont permis de déloger ces fiefs de l'État islamique, eh bien ces familles sont en train de retourner dans la maison qui a été braquée, entre guillemets, par les soldats de Daesh.
Et qui vont récupérer. Dites-moi, Karim, là, vous êtes dans cette chambre d'hôtel. C'est quoi l'ambiance d'un hôtel au Liban, à la frontière syrienne?
Écoutez, c'est absolument étonnant, le Liban. C'est un pays absolument... J'ai toujours été fasciné par ce pays multiculturel. Par exemple, on passe d'une ville où on vit l'ambiance du Ramadan, une autre ville où j'ai vécu, Pentecôte, ce week-end, avec... un groupe de jeunes chrétiens. C'est un pays qui a vécu la guerre. C'est un pays que... Hier, j'étais avec une famille chrétienne qui me disait, chez nous en France, vous avez besoin... C'est étonnant, ce qu'il m'a dit, c'est quand même assez dur. Il m'a dit, vous avez besoin d'une bonne guerre pour retrouver ce pays qui est la France. Ils disent que la France n'est plus que ce qu'elle était. Et en quelque sorte, c'est un pays un pays miraculé, le Liban. Donc cette ambiance est une ambiance beaucoup de fêtes, on vit la fête dans ce pays. Et c'est pour cela que j'ai, vous le savez, un projet avec Bernard Zekri et d'autres producteurs qui s'appelle Baila by Night.
Ah oui, vous allez suivre la fête. Merci Karim Baila, on vous laisse dans cette chambre d'hôtel libanaise à la frontière de la Syrie. Je vous assure qu'en temps de paix, on peut tout à fait se retrouver aussi. Vous allez repasser nous voir en France et tout ça. Merci beaucoup. À bientôt.
Plus près de toi, Edouard Baird.
Alors, un enfant vient d'arriver, on me signale, en studio. Comment tu t'appelles? Comment?
Bernardo.
Pas du tout, j'entends rien du tout. Attendez, j'ai des énormes soucis techniques l'ORTF local. Allô, allô?
Oui.
Oui, Bernardo?
Bernardo, oui.
On va te mettre ton petit jingle, Bernardo.
Sous le pont Mirabeau, coule la Seine.
Un enfant, un poème.
Un enfant, un poème.
La joie venait toujours d'après la peine.
Bernardo, on va écouter ton poème, on parlera juste après. Qu'est-ce que c'est?
Le laboureur et ses enfants.
On écoute.
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait la houte. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage d'argent. Point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor.
C'est fini?
Oui.
C'est bien. Bernardo, on va parler un petit peu avec toi?
Oui.
Tu es en quelle classe?
Sixième.
Tu as quel âge? Hein? Oui.
Oui.
C'est Admen.
Oui, c'est moi.
Comment on en est arrivé là, Atmen?
Je ne sais pas.
Depuis un an, on tient le pari d'avoir tous les jours un vrai enfant. Vous êtes en train de discréditer entièrement ce magnifique mouvement de réconciliation entre générations en vous faisant passer d'une façon assez lamentable, je me permets de vous le dire, pour un enfant.
Écoutez, la
tout ça pour placer ce poème
que j'adore.
De La Fontaine que vous cherchez depuis 15 ans à fourguer dans toutes les productions de France et de Navarre. Hein, Atmen, on en est où là?
Je sais pas, c'est un...
On va se ressaisir.
Après un enfant, un poème, un adulte, un problème.
À tout de suite, merci.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
J'en mangerai.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Wait a minute, we got some time. Voilà, Taï, le rappeur Taï, comprendra que je l'interrompe. Il se vengera pas parce que c'est l'heure du journal de Thierry Paré.
Radio Nova.
L'organisation État islamique revendique une prise d'otage dans un appartement de la banlieue de Melbourne. Un homme a pris en otage une femme avant d'être abattu par la police. Selon Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, deux Français sont portés disparus après l'attentat de Londres samedi soir, au cours duquel un autre Français a été tué. Jean-Yves Le Drian qui a aussi indiqué qu'il y avait 8 blessés français, dont 4 qui sont toujours dans un état grave. Et puis la police britannique a fait connaître l'identité de 2 des 3 assaillants, 2 hommes de 27 et 30 ans, connus des services de sécurité, pour l'un d'entre eux au moins. L'enquête, elle se poursuit pour déterminer évidemment l'identité du troisième assaillant. Le Monténégro qui entre dans l'OTAN. L'intégration de cette ex-république yougoslave a provoqué la colère de Moscou qui parle de provocation. L'OTAN contrôle désormais tout le littoral nord de la Méditerranée, de Gibraltar jusqu'à la frontière turco-syrienne, et le Monténégro est devenu le 29e membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le tribunal supérieur électoral brésilien va siéger à partir de ce mardi. Il va se pencher sur les comptes électoraux du président Michel Temer et le mandat de ce dernier pourrait être tout simplement suspendu. Dans 5 jours, le premier tour des législatives. Les Français de l'étranger ont déjà voté. Les candidats du mouvement d'Emmanuel Macron sont arrivés en tête dans 10 des 11 circonscriptions concernées. Néanmoins, aucun élu dès le premier tour. Et pour cause, la participation est trop faible, 19,1%. Après les pseudo-révélations d'un avant-projet de loi consacré au Code du travail, les syndicats vont recevoir aujourd'hui la feuille de route officielle du gouvernement. Emmanuel Macron sollicitera ensuite l'autorisation du Parlement entre les 24 et 28 juillet prochains pour réformer le travail par ordonnance. Objectif, les adopter en Conseil des ministres. Ce serait le 20 septembre prochain. Face à l'afflux de migrants à Calais, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, annonce l'envoi de 3 unités supplémentaires de forces mobiles, c'est-à-dire plus de 150 policiers et gendarmes. Priorité, dit-il, c'est que Calais et le Dunkerquois ne demeurent pas des lieux de fixation et que les jungles ne s'y reconstituent pas. Bob Dylan a transmis son discours d'acceptation du prix Nobel. Il avait 6 mois pour le faire. Un discours qui était exigé, en fait. Hein, c'est dans les statuts du Nobel pour recevoir l'argent du prix, soit près de 820 000 euros. Il n'y a plus de Français dans le tableau féminin de Roland-Garros. En revanche, il y a 2 Françaises dans le tableau féminin, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Cette dernière sera opposée tout à l'heure à la Suissesse Timea Bagzinski. Le deuxième quart de finale féminin du jour opposera la Lettonne Jelena Ostapenko à la Danoise Caroline Wozniacki. Et puis 2 quarts de finale chez les hommes aussi aujourd'hui. L'Espagnol Rafael Nadal sera opposé à son compatriote Pablo Carreño Busta. Et puis le Serbe Novak Djokovic, lui, sera opposé à l'Autrichien Dominic Thiem.
Et vous en pensez quoi, Thierry Paré?
Nova. Du tennis?
En général, de tout.
De la vie, de manière générale?
Non, de tout.
Ah, de tout? Pas grand-chose,
ouais.
En définitive.
Oui, enfin, c'est ça, parce que vous êtes un...
Ça me donne envie de chialer, quoi.
Mais je crois qu'en même temps, dans ces larmes, il y a un rire caché, Thierry Paré, bien sûr.
C'est pas faux. Hein.
Ouais. C'est ça qui est très beau, parce que vous me disiez, le monde est une fête en larmes.
C'est exactement ça. Mais après, si vous dévoilez, parce qu'évidemment, on se connaît trop bien, Edouard. Donc,
bien entendu, j'ai connu la nudité de votre âme. Gros béco, on va dans la rue avec Jacques souvent.
Je crois que j'ai découvert un scandale immobilier, là.
Scandale immobilier, Jacques Souban, ça ouais, nous intéresse.
Je crois. Non, mais je
vous êtes où? Vous êtes où? Calmez-vous, il peut vous arriver des... Il y a peut-être des mecs. Faites gaffe. Vous êtes
en fait,
où, là?
Depuis que j'ai tendu le micro, personne ne veut me parler dans ce quartier. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Je suis rue des colonnes du trône. Et c'est une voie, en fait, publique qui est privatisée. Vous savez, c'est un peu comme ces gated cities, là, les cités un peu fermées avec des gardiens, etc. Il n'y a pas de gardiens, mais il y a une barrière qui ferme la voie publique, quoi. Et c'est une grande,
alors vous pensez rapace. Qu'ils n'ont pas le droit. Donc les rues des colonnes du trône, ça va vers la foire du trône ou pas du tout?
La foire du trône. Ah non, la foire du trône.
De quel trône s'agit-il? Quel roi en exil?
Oui, c'est Philippe Auguste et Saint-Louis qui sont sur les colonnes là.
Mais d'accord, donc c'est la vieille barrière de Philippe Auguste. Oui, pardon.
J'essaie de rencontrer des gens, mais personne ne veut me parler. Et alors, je m'avance la rue du pensionnat. Il y a un café qui s'appelle Plat du jour.
Alors, c'est peut-être pas le nom, c'est peut-être le... Oui,
c'est le nom.
La proposition alimentaire,
non ? Ah ben voilà, le voilà qui arrive. Le voilà qui arrive. Monsieur...
Parce qu'il y a des matins comme ça où on fait peur, on ne sait pas pourquoi.
Il ne veut pas.
Vous avez changé quelque chose dans votre apparence physique, Jacques Souvent, ce matin ?
Bah, je sais pas, j'ai une sale gueule, ouais. Mais
d'habitude, vous faites plutôt envie. Et vous pensez qu'il vaut mieux faire envie ou pitié, Jack ?
Je sais pas, mais en tout cas, pas du mépris.
Non, c'est peut-être pas du mépris. Ah oui. Mais tout à l'heure, vous avez une ancienne ministre, quand même, c'est très étonnant.
Oui, ça, c'est dingue.
Vous nous avez pas manipulé, vous cherchez pas.
Non, j'étais pas sûr que ce soit elle, et puis c'était bien elle. Donc, ça s'était un peu perdu sur la place, c'était drôle. Et
là, donc, vous en êtes là, un ministre ou rien, oui.
Un ministre, alors là, je suis au 5 de la rue du pensionnat. Il y a une petite caméra de vidéosurveillance, mais vraiment, genre modèle années 70. On a l'impression qu'on n'y croit pas vraiment.
Et donc, une caméra d'avant l'invention des caméras, oui.
Oui, elle est dirigée vers une ardoise qui est collée contre un mur. En bas, il y a une boîte à idées, et sur l'ardoise, il est inscrit, c'est Camus qui l'a dit, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Voilà. Et c'est Nicole qui a écrit ça, on m'a dit, mais Nicole, elle n'est pas chez elle. Donc, vous voyez, j'enquête dans cette petite
impasse. Je n'ai pas compris la suite sur l'histoire Nicole. J'ai lâché...
Nicole qui a écrit ça. Nicole a écrit ce petit mot.
Sur le mur, cette rue du pensionnat, il y a une ardoise avec un mot signé Nicole. Il y a plus de choses à admirer que de choses à mépriser chez les hommes.
Voilà, c'est ça.
C'est ce qu'on pense aussi, alors, non ? Toujours personne. Non, mais c'était bien. Il y avait vous, il y avait Camus, il y avait Nicole. Il y avait un scandale immobilier, ça me va, moi.
J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cette voie publique privatisée, là. Ça ne me va pas du tout, ça.
Elle est belle, ta colère, hombre. À tout à l'heure, Jack.
J'enquête.
Salut.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Be with you.
Les territoires réconciliés. Le dispositif de Radio Nova ce matin nous permet de tendre des mains, des bras, des pieds, de nous réunir tous. D'un côté, Marie Misset et Atmen Khelif, dans un sous-sol parisien, incarnent cet esprit de résistance underground. De l'autre, moi-même, au fond de la campagne de la Drôme, j'incarne cette France agricole, cette France des maquis qui a su prendre les fusils lorsqu'il le fallait. Et puis, au bout de ce triangle, François Rollin, dans la banlieue de Marseille, pour des raisons qu'on connaîtra ou pas, représente cette France méridionale, ce port ouvert au monde, vers le Grand Sud, ces paquebots qui partaient à l'époque où la Canebière était le centre du monde. François Rollin, bonjour.
Bonjour Edouard, mais dites voir, Marseille a drôlement rétréci parce que je ne suis pas dans les banlieues, je suis à 20 mètres de la Canebière.
Oui, mais c'est une licence poétique, comprenez-moi bien. Il faut soyez en soutien, vous voyez, oui.
Et alors vous tombez bien parce que j'habite rue Consola, comme quelqu'un qu'on console.
Qu'on console, oui. Voilà. Oui. Vous êtes en location, là, François ?
Voilà, je suis en location rue Consola.
Et comment ça se passe ? C'est une location à court terme ?
Alors, disons à moyen terme, on appelle ça maintenant. Hein.
Vous n'avez pas eu à produire des pièces particulières, une caution bancaire ?
Écoutez, j'ai surtout produit mon plus beau sourire et vous savez qu'il est irrésistible.
Oh là, ça je sais que plus d'un et d'une s'y est laissé prendre.
Mais oui.
François, je vous connais bien, je connais cette voix. C'est celle du mec qui n'est pas réveillé depuis des heures.
Si, il est réveillé depuis assez longtemps, mais il paye quand même le fait d'être un fumeur invétéré.
Ah oui, vous donc fumez pas que par la bouche, m'a-t-on dit. François, on peut dire pourquoi vous êtes à Marseille ?
Alors, écoutez, je gagne ma vie tant bien que mal. Je m'efforce, Edouard. J'encadre un stage pour des jeunes gens. Vous voyez ?
Oui.
C'est pathétique, hein.
Non, c'est très beau, pas du tout, plaisanté ou quoi ? C'est tout à fait gentil de votre part.
Et je suis bien content d'être là, bien logé. Hier soir, lorsque je suis arrivé, tout était miraculeux. J'ai bien dîné, j'étais bien reçu, bien accueilli partout, bien accompagné, bien que je sois seul. C'était formidable, cette ville m'a ouvert les bras.
Ben ça me fait plaisir, François, parce qu'il n'est de meilleure compagnie que soi-même, vous disiez dans vos mémoires.
Bien sûr.
Est-ce que votre animal du mardi est lié à cette ville, est lié à cet accueil?
Un petit peu, vous allez le voir.
Alors, je n'ai pas de jingle parce qu'Armel l'a laissé à Paris. Voulez-vous que je le fasse à la bouche? Voulez-vous qu'on le fasse à la bouche?
Mais alors, faites-le rapidement, faites-le en accéléré à la bouche.
Tiens, Eugénie, allez-y.
Allez, oh, Eugénie, c'est parfait.
L'animal du mardi.
Voilà.
Elle est formidable. Eh bien, l'animal de ce mardi, c'est la frite.
La frite?
La frite, oui.
Oui.
La frite est un animal apode, aptère et anour. Hein, ça signifie qu'elle n'a pas de pieds, pas d'ailes et pas de queue. Elle n'a que des yeux et encore pas toujours. La frite est un animal grégaire et social. On la rencontre très rarement seule. Elle vit généralement à 30 ou 40 dans un nid de forme conique qu'on appelle cornet. La frite ne craint pas le froid. Elle résiste très bien et très longtemps à des températures allant jusqu'à moins 28 degrés, mais elle ne trouve son plein épanouissement que dans des milieux chauds aux alentours de 180 degrés, où elle se plaît à séjourner une bonne dizaine de minutes. De même que pour attraper un oiseau, vous le savez Edouard, il suffit de lui mettre du sel sur la queue, de même on attrape facilement une frite en lui mettant du sel sur la tête, et il n'est même pas nécessaire d'approcher discrètement et silencieusement comme pour les oiseaux. On peut très bien hurler « Luigi, remets-moi une panne de Stella » sans que la frite songe à s'envoler. Animal sédentaire, autrefois cantonné au nord de la France et à la Belgique, la frite a étendu aujourd'hui son territoire jusqu'à la Moldavie à l'est et jusqu'au pays du Maghreb au sud. Au nord, en Scandinavie, la frite continue de disputer une niche écologique au hareng que nous étudierons mardi prochain. N'oubliez pas d'apporter vos pommes à l'huile et votre persil plat.
Merci infiniment François Rollin. Hélas, vous avez peut-être mis exprès un petit fait, c'est l'espérance de vie de la frite qui, je crois, n'est pas glorieuse.
Ah, bah écoutez, hein, voilà. Oui, mais l'important, c'est qu'il y ait la vie. Après, elle dure ce qu'elle dure. Mais vous avez bien fait, parce que beaucoup d'auditeurs sont sensibles à cette brièveté de...
Pour ceux qui seraient tentés d'être incarnés en frites, je leur signale ça.
Oui,
merci, voilà. Merci François. C'était un plaisir, cher ami, de vous entendre là de Marseille vanter la frite.
Ouais.
À tout de suite. À bientôt. La revue de presse de Marie Misset.
C'est pas qu'elle fait que lire le journal. La revue de presse de Marie Misset.
Ah oui. Ben il le dit aussi, oui. Là, Dupuche, parce qu'en fait, donc j'ai dit la même chose que le jingle, donc je n'ai servi à rien.
C'est qui Dupuche?
C'est celui qui fait la voix, c'est mon camarade Joël Dupuche qui fait votre voix.
Bonsoir Joël.
De votre générique, chère Marie.
Il ne connaît pas.
Bonjour Joël.
C'est pas Joël Dupuche?
Non, j'ai croisé Joël, enregistre. Mais peut-être que je connaissais mal son nom de famille, enfin voilà.
L'ostréiculteur du Cap Ferret.
Oui, celui des petits mouchoirs.
Exactement.
Oui, c'est lui.
Il verse du sable dans la tombe à la fin du jardin.
Bon, alors ça n'a servi. En fait,
bon,
et donc ça a amené un commentaire en plus.
Ah, bien, très pipoïque.
Alors on le remet une dernière fois et on vous écoute.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Une revue de presse aujourd'hui consacrée à un raz de marée annoncé, celui des candidats de En Marche aux législatives. Le Monde comme Libé insiste sur les bouleversements à venir. Libé commence par décortiquer en signe de présage les résultats spectaculaires chez les Français de l'étranger. Exemple, dans la circonscription Afrique et Moyen-Orient, le candidat En Marche a fait 61% au premier tour, c'est beaucoup, contre 21% pour les Républicains. C'était pourtant un bastion de la droite. Un candidat PS explique qu'il comprend que la vague, c'est frais, c'est nouveau, c'est beau. Élément de langage océanique repris chez un candidat républicain pardon, qui en a marre, et qui se demande seulement quelle sera la hauteur de la vague qui l'engloutira, lui et son parti. Tout
il
le
dit
monde...
vraiment marre ou c'est vous qui interprétez?
Alors, il dit seulement marre. Je crois qu'il le dit deux fois tout de même. Et moi, je vais rajouter un troisième.
Vous vous rendez compte de votre responsabilité de rajouter un troisième marre? Vous le tournez en ridicule par ce marre de trop.
Vous croyez? Moi, je pense que donne plutôt toute l'ampleur de son marasme.
Ah, c'est limite. Mmh. Le deuxième, c'était de l'ampleur. Le troisième, c'est du ridicule, mais on en parlera tout à l'heure.
Il en a marre. Quelle sera la hauteur de la vague donc, qui engloutira son parti? Et lui, avec tout le monde est donc d'accord sur cette métaphore de la vague. Et dans un magnifique passage de la revue Entretien, dont je vous ai déjà parlé, Herri de Luca explique que pour lui, la littérature, c'est justement le sel qui reste sur le rocher une fois que la vague s'est retirée. Quel sera donc notre sel ici? Comment s'écrira notre récit politique. Sera-ce une majorité telle que l'opposition n'existera que dans la rue ? Demande Laurent Geoffrin dans Libé. Ce renouvellement politique incroyable chez les députés pas vu depuis 1919 accouchera-t-il d'une souris, d'un changement minimal ? C'est la crainte de l'historien Nicolas Bousselier dans Le Monde qui dit que si ces nouveaux députés peu habitués aux mœurs parlementaires sont des godillots, alors cela ne changera rien. Alors, j'ai dû aller voir ce qu'il entendait par godillot, vu que j'ai entendu l'expression plusieurs fois cette semaine. Ce sont en outre des chaussures, le parlementaire, les parlementaires gaullistes qui se mouchaient dès que De Gaulle éternuait, qui faisaient tout comme il disait, quoi. Reste que partout, on a des signes que cette verticalité, justement, du godillot dans l'exercice, du pouvoir a basculé. Même à l'école, deux exemples. Celle des écoles de code dont nous parle le Figaro aujourd'hui. Le wagon est l'école 42, où l'on évolue l'école 42 selon des niveaux de jeux vidéo, où on n'est pas obligé de finir l'école, hein, d'ailleurs on ne la finit jamais vraiment, où il n'y a pas de professeur. Nicolas Sadirac, fondateur avec Xavier Noël de l'école, explique que le modèle de l'éducation va droit dans le mur, parce que le savoir du professeur n'est plus une plus-value, il est disponible partout. Le rôle du professeur va donc changer. C'est aussi l'avis de Nicolas Lemoine, prof en Seine-Saint-Denis, dont nous parle le nouveau numéro de la revue Oui Demain. Nicolas Lemoine, donc, qui expérimente la classe inversée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, les élèves suivent les cours à la maison, sur YouTube, et en classe, on fait les devoirs en groupe. Donc, c'est complètement inversé. Résultat, les élèves ne lâchent pas l'affaire et le prof peut les accompagner plus individuellement. Et puis, tant qu'on en est à parler de tout bouleverser, et quitte à m'écarter de mon sujet, un article du New York Times, disponible en supplément dans Libé aujourd'hui, m'a attrapé les yeux. Il explore les possibilités d'une nouvelle forme de procréation, celle où on utilise des cellules de la peau pour créer des ovules et du sperme. In vitro gametogenis, dans le texte. Dans 5 ans, je serais surprise que ça existe pour les humains, dit la chercheuse Jane Loring. Dans 25 ans, pas du tout. À partir de là, on peut tout imaginer. Deux hommes comme deux femmes pourraient concevoir un enfant. On pourrait même faire un enfant avec 4 personnes. Un homme pourrait utiliser ses propres cellules pour faire à la fois l'ovule et le sperme et faire un clone quasi tout seul, comme dit la chanson, ce quasi-cloné. Le risque est aussi de créer des fermes d'embryons ou de réaliser le scénario Brad Pitt où l'on volerait des cellules de peau de célébrités dans leur chambre d'hôtel pour faire des bébés. C'est pas non plus à écarter. Le New York Times regrette d'ailleurs que, comme souvent, la recherche aille beaucoup plus vite que les interrogations éthiques et morales qu'elle suscite. Il faudrait sans doute y penser avant même de faire des bébés à partir de cellules de peau. Le sel qui reste une fois que la mère s'est retirée a parfois un goût un peu radioactif.
Je vous remercie, Marie Misset. Vous avez agrandi, évidemment, notre champ de vision. Ça ne nous empêchera pas, évidemment, ces nouvelles qui se bousculent, cette accélération du temps, de prendre un café.
Non.
Très calmement.
Non, un troisième.
Voilà, très calmement, tout ça. Je vous assure que vu d'ici, vu de ma fenêtre, là, sur la vallée de Nuance, les choses ne bougent pas si vite. Oui. Les cellules de peau, il y en a pas plus qu'avant.
Faites attention, les doigts. Hein.
Et pour le café, c'est bien de.
Faites attention à vos draps.
Pour le café, c'est bien que marre de café.
Pardon, Atmen ?
Pour le café, j'aime bien le répéter.
C'est ça qui me rassure. Il y aura toujours des jeux de mots de merde. Il y aura toujours un type pour dire une connerie. Et je vous remercie d'être là, mon cher ami. On se retrouve tout de suite après. Moi, je suis avec le président de l'Office du Tourisme de Nyons qui m'a rejoint. On va prendre un petit déjeuner. Jean-Jacques, on prononce Montpessan ou comment on prononce ?
Montpessan.
Jean-Jacques, on va prendre un café, on va prendre des œufs au lard. Ensuite, on va voir un petit coup. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Qu'est-ce qu'on fait normalement quand il y a de la pub qui passe ? Quand vous écoutez la radio, qu'il y a de la pub, on coupe, on passe sur une autre radio ? Je m'en rends pas compte. On monte, ça s'amende tout seul. Le rappel des titres, Thierry Barré.
Radio Nova.
Deux Français sont toujours portés disparus après l'attentat de Londres samedi soir, au cours duquel un autre Français a été tué. Il y a par ailleurs 8 blessés français, toujours dont 4 qui sont dans un état jugé grave. La police britannique elle a dévoilé hier soir l'identité de 2 des 3 assaillants qui ont fait cette mort, sur le London Bridge et au Borough Market. Il s'agit de 2 hommes de 27 et 30 ans, dont un était connu des services de sécurité. Dans 5 jours, le premier tour des législatives. Les Français de l'étranger ont donc déjà voté. Les candidats du mouvement d'Emmanuel Macron sont arrivés en tête dans 10 des 11 circonscriptions concernées. Néanmoins, aucun élu dès le premier tour pour cause de participation trop faible, 19,1%. Après les pseudo-révélations d'un avant-projet de loi consacré au Code du travail, les syndicats vont recevoir aujourd'hui la feuille de route du gouvernement, feuille de route officielle. Emmanuel Macron sollicitera ensuite l'autorisation du Parlement fin juillet pour réformer le travail par ordonnance et puis ensuite, objectif, bien les adopter, ces mesures en Conseil des ministres en septembre prochain. Face à l'afflux de migrants à Calais, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, annonce l'envoi de 3 unités supplémentaires de forces mobiles, c'est-à-dire plus de 150 policiers et gendarmes. Notre priorité, dit-il, c'est que Calais et le Dunkerquois ne demeurent pas des lieux de fixation et que les jungles ne s'y reconstituent pas. Le Monténégro qui entre dans l'OTAN, l'intégration de cette ex-république yougoslave a provoqué la colère de Moscou qui parle de provocation. L'OTAN contrôle désormais tout le littoral nord de la Méditerranée, de Gibraltar jusqu'à la frontière turco-syrienne. Et le Monténégro est devenu le 29e membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le tribunal supérieur électoral brésilien va siéger à partir de ce mardi. Il va se pencher sur les comptes électoraux du président Michel Temer. Et le mandat de ce dernier pourrait être tout simplement suspendu. Bob Dylan a transmis son discours d'acceptation du prix Nobel. Il avait 6 mois pour le faire. Discours qui était exigé, c'est dans les statuts du Nobel, pour recevoir l'argent du prix, soit près de 820 000 euros. L'animateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, a été couronné pour la 4e fois consécutive du Gérard du pire animateur. Au cours des 11e Gérard de la télévision, qui remet des prix aux pires animateurs et programmes, et Nora Malagré, elle, qui vient de quitter l'émission, a reçu son 2e Gérard de la pire animatrice. Il n'y a plus de Français dans le tableau masculin de Roland Garros. En revanche, il y a 2 Françaises dans le tableau féminin, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Cette dernière sera opposée à la Suissesse Timea Bagzinski tout à l'heure. Le 2e quart de finale féminin du jour opposera la Lettonne Jelena Ostapenko à la Danoise Caroline Wozniacki. Et puis 2 quarts de finale chez les hommes aussi aujourd'hui. L'Espagnol Rafael Nadal sera opposé à son compatriote Pablo Carreño Busta. Et puis le Serbe Novak Djokovic, lui, sera opposé à l'Autrichien Dominic Thiem. Et puis tiens, pour finir sur un truc léger, aujourd'hui c'est les 135 ans de l'invention du fer à repasser. Voilà.
Non mais c'est pas léger l'invention du fer à repasser, c'est
vrai.
Très grave, vous savez.
Non, c'est vrai, je suis d'accord, ça peut être important.
C'est une libération. Avant, on repassait à main nue, on mettait nos mains au chaud, sur des tisons, et quand la main était vraiment brûlante, on la passait sur le linge. Il y a des générations de femmes qui ont eu les mains terriblement brûlées, donc ne décrétez pas la légèreté.
Oui, c'est vrai que leur passage est féminin, c'est vrai.
C'est le Monténégro, l'idée que l'OTAN tout à coup tienne toute la côte. Si c'est ça qui me fait rire, c'est mon droit, vous comprenez? Thierry Paré.
Oh, je vous comprends.
Donc, quand vous. Parce que moi, si j'écoute un peu vite votre truc, j'ai l'impression que Cyril Hanouna a gagné la Coupe Davis au Monténégro. Vous voyez, donc il y a un moment, il y a un embrouillamini de l'info ce matin.
C'est la 4e fois qu'il a quand même ce prix. Donc,
comment?
C'est la 4e fois qu'il a un Gérard. Gérard.
Vous collectionnez, vous êtes vraiment. Vous êtes très procédurier, vous avez vos fiches, vous avez des trucs de maître chanteur, vous envoyez des petits bulletins. On retrouve dans la rue Jacques souvent.
Bah, moi, je suis avec Anaïs. Alors, c'était marrant parce qu'on a fait connaissance dans la rue Marsoulan. Et
alors, Jacques Souvent, tout à l'heure, vous enquêtiez sur une voie publique qui avait été privatisée. Oh, vous avez déjà renoncé à votre enquête.
J'ai abandonné. J'ai vu trop.
Vous êtes un foudre de guerre de l'enquête. Hein, vous êtes vraiment.
Ouais, mais ils ont mis tous les gens que je rencontrais mettaient un index devant la bouche comme ça. Ils faisaient.
Et alors, quand on vous dit chute, vous vous taisez. Ah ben, elle est belle, la France de l'investigation.
Ah bah oui, dites donc. Moi, j'adhère. Moi, je cherche pas plus loin.
Bon, alors là, vous êtes avec une jeune femme qui s'appelle.
Anaïs. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on était devant un magasin de pédicure et vous attendiez Anaïs. Et là, vous venez de vous rendre compte qu'en fait, c'était ouvert.
Oui, la porte est ouverte, en fait. Donc, ça fait 20 minutes que je suis en avance. Et,
ah bon. Anaïs, bonjour. Jardin.
Bonjour.
Ce rendez-vous chez le pédicure tôt le matin, est-ce pour partir d'un bon pied? Un très bon jeu de mots.
Magnifique, coup, j'adore. La journée.
Exactement, c'est pour partir d'un bon pied. Mais ce n'est pas un pédicure, en fait, que je vais voir. C'est un podologue.
D'accord. Alors souvent, est-ce que c'est la même personne? C'est un cabinet de podologie pédicure?
Apparemment, oui.
Donc la podologie, c'est le stade après. C'est le stade, il y a une vraie souffrance sur le pied.
Une vraie souffrance, c'est vous qui le dites. En tout cas, oui, j'ai des douleurs un peu au pied, mais une souffrance.
On est sur quel pied? On est sur quel pied, Anaïs? Pied droit, pied gauche?
Non, les deux.
Ça se manifeste comment, cette douleur, Anaïs, si je peux me permettre d'essayer d'aller plus loin avec vous?
J'ai mal à la plante des pieds quand je suis debout, que je reste debout, que je marche.
D'accord, vous pensez que ça va jusqu'à l'os ou ça reste au niveau de la peau?
J'ai déjà commencé la consultation là, parce que
oui,
je ne sais pas.
Oui, Là, vous allez, asseyez-vous, retirez vos... Vous êtes chaussée comment ce matin, Naïs?
Avec des petites tennis.
Ah oui, peut-être que le soulier plat ne vous va pas. Est-ce que vous avez les pieds plats?
Bonne question encore. Bah, il faudrait voir, je ne sais pas.
Peut-être que oui, il faudrait le savoir parce que vous n'avez pas fait votre service militaire, c'est peut-être à cause de ça. Dites-moi,
ah, oui,
Naïs,
ça doit être ça.
On va renforcer votre voûte plantaire. Vous avez déjà porté des semelles orthopédiques?
Ah non.
Peut-être qu'on va y venir. Ne vous affolez pas, Naïs. Ne vous affolez pas. Hein. Ça ne veut rien dire sur le temps qui passe. Mais peut-être. Est-ce que cette douleur remonte jusqu'au bassin et jusqu'à la colonne vertébrale ou ça reste au niveau des pieds?
Non, ça reste au niveau des pieds. Vous avez l'air de vous y connaître, en fait.
Le corps humain m'intéresse, Anaïs. Je pense que vous pouvez économiser cette séance. Ne poussez pas la porte. Vous allez vous allonger sur le trottoir. Là, et Jacques Souvent, qui est aussi podologue conseil.
Bonjour, docteur Souvent.
Docteur Souvent va un petit peu voir, va étudier votre système. Vous aimez bien les rendez-vous médicaux, Anaïs, d'habitude?
Pas spécialement, non.
Vous aimez les médicaments? Vous êtes un peu réticente à tout ça?
Je n'apprécie pas spécialement tout ça. C'est juste que parfois, il faut passer par là. Mais...
À quel moment on se décide, entre la douleur en se disant « elle va passer », à quel moment on se décide à vraiment aller chez le podologue? C'est la question qui me brûle ce matin.
Je ne sais pas. En fait, c'est un monsieur que j'ai rencontré lors d'un cours de gym et qui m'a dit que j'avais peut-être un déséquilibre. Voilà, au niveau de ma posture, et que ça pourrait être bien que j'aille consulter. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette initiative-là.
Ça vient souvent de l'extérieur, hein. On se dit « tiens, ça va passer », on croise tout le temps quelqu'un qui dit « tu devrais faire attention ». Il y a souvent un mec qui dit « dis-moi, tes problèmes de pied, tu devrais quand même aller consulter un podologue ». Et là, l'angoisse monte, la nuit, on fait des rêves de pieds géants qui nous écrasent.
Le
cauchemar.
On se décide. Voilà.
Le cauchemar monte et un jour, on se lance, on y va, même si on est un peu hypochondriaque. Bon rendez-vous chez le podologue, j'aurais essayé de vous faire économiser.
Surtout que là, j'ai l'impression d'en avoir eu deux consultations pour le plus d'une, donc c'est parfait.
La première est moins chère. Salut, à tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
On a de la chance, parfois, quand on tourne des films de cinéma, de voyager, de circuler. Et là, je suis en tournage. Un film qui s'appelle Raoul Taburin, un film de Pierre Godot. Il y a Benoît Poulevard qui va nous rejoindre dans quelques jours. Et comme ça, on visite des régions françaises. Je suis à Nyons, là. Je suis avec Jean-Jacques Montpessen. Jean-Jacques, qui est le président de l'Office du tourisme de Nyons. Donc comme ça, on peut apprendre. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la maison où on est là, où on fait l'émission, est au milieu de la vallée, au milieu des vignes. On voit tout en bas. Décrivez-nous un petit peu le paysage, Jean-Jacques.
Ben là, on voit les alentours, on peut dire la banlieue de Nyons. En fait, la banlieue de Nyons, ce sont des champs d'oliviers, des champs d'abricotiers, des vignobles, et puis de la montagne. Donc, c'est un espace... On est juste au pied des Préalpes et tout de suite après, c'est de la moyenne montagne. Donc c'est un lieu qui est très, très beau. Et Nyons est un verrou, en quelque sorte, à l'entrée d'une vallée qui est la vallée de l'Aigue.
Alors c'est à la limite, c'est entre la Provence et le Rhône-Alpes. C'est des régions, souvent, quand on arrive en train, on se dit tiens, le ciel change brusquement et tout à coup, miraculeusement, il fait beau à quelques kilomètres près.
Alors là, on est en Provence. Hein. Nyons est au cœur d'une destination qui s'appelle la Drôme provençale, qui correspond un petit peu au sud de la Drôme. Et donc, toute cette zone, c'est la Provence. La langue provençale y était parlée traditionnellement. On est en Provence. La preuve, on a l'olivier sous les yeux. Mais... on est à la limite à Nyons, on est à la limite de la plaine du Rhône, des plaines de rhodaniennes, et de la moyenne montagne, ce qu'on appelle les Préalpes alpines, qui nous emmène ensuite jusqu'à la vallée, jusqu'à Sisteron, si vous voulez, jusqu'à la vallée de la Durance.
Alors, à côté, il y a le Ventoux, c'est plus connu à cause de... Il y a le vélo, il y a le mont du Ventoux, il y a des régions plus connues. Alors, ça consiste en quoi, s'occuper du tourisme à Nyons? Qu'est-ce que les gens viennent voir à Nyons?
Ben, s'occuper du tourisme à Nyons, c'est un privilège extraordinaire parce que Nyons est un endroit, et là, le pays de Nyons, hein, les alentours, qui se caractérise par une diversité qui est offerte aux visiteurs, qui est assez exceptionnelle. C'est-à-dire que je m'amuse toujours de dire que si vous vous amusez à faire une liste de tous les atouts, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on peut faire à Nyons, je vous mets au défi de trouver un autre endroit, dans le sud de la France, on va dire, où vous retrouverez la même diversité, la même complexité.
Ah, vous êtes bon, vous en vendez bien du Nyons, là. Vous êtes... non, parce que vous êtes convaincu. Je ne dis pas que vous êtes un politicien, je dis que vous devrez...
Je pourrais presque le prouver, en quelque sorte.
Alors c'est aussi connu, moi, quand on dit tu vas à Nyons, c'est la capitale de l'olive.
Voilà, allez, on commence par le bon bout. Nyons, c'est la capitale de l'olive, d'abord parce que c'est la capitale de l'olive en tant que fruit, c'est-à-dire l'olive de bouche, ce qu'on appelle.
Pas de l'huile d'olive, alors.
Les deux. L'olive de bouche, d'abord, c'est une olive noire qui s'appelle la catégorie, c'est la tanche. Et elle est exceptionnelle, vraiment. Alors là, il n'y a pas photo.
Alors là, c'est même pas la peine de s'aligner, c'est ça?
Voilà, oui. c'est extraordinaire. Et puis, de cette olive, on fait également, donc, on fait une huile d'olive qui est tout aussi remarquable. Et la tanche, l'olive et l'huile d'olive sont et ont été les premières olives et huiles d'olive AOP de France il y a 20-30 ans.
En tout cas, c'est d'une bosquée incroyable. Là, c'est d'une beauté vraiment, vraiment très puissante. Et le vin ici, c'est quoi?
Alors, le vin ici, c'est le Côte-du-Rhône. On est dans la zone Côte-du-Rhône. Si on va au-delà, un peu au-delà de Nyons, on a ce qu'on appelle les Coteaux des Baronnies, qui sont des vins très agréables. Et sinon, ici, c'est le Côte-du-Rhône. Et juste à côté de Nyons, à 4-5 km, il y a Vinsobres, qui est le premier cru des Côtes-du-Rhône pour la région du sud de la Drôme. C'est-à-dire les crus, vous voyez, c'est les vins de Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Kéran, etc.
Kéran et tout ça, et le Rasto. Et dites-moi, alors Jean-Jacques Montpessin, il y a un maillage en France formidable, les offices du tourisme, mais ça consiste en quoi? C'est-à-dire, urgence tourisme, il nous manque des chambres, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi une journée d'un président d'office du tourisme?
Oh, le président office de tourisme, il fait rien. Non, mais ça, c'est le plus important. Il faut utiliser au mieux le personnel. Non, un office de tourisme a un rôle fondamental qui est d'accueillir le mieux possible les visiteurs en rendant le plus grand service aux professionnels du tourisme. C'est-à-dire que mettre tout ça en relation, il faut que les visiteurs soient très bien accueillis. Donc, il y a une exigence d'excellence dans un office de tourisme. Il faut qu'ils soient très bien accueillis, que ce soit en anglais, en hollandais.
Et vous parlez tout ça, bien sûr, Jean-Jacques.
Alors, bon, j'en parle un peu.
En hollandais, un peu, accueillez-moi en hollandais.
En hollandais, pas du tout.
Vous ne voulez pas m'accueillir en... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire du vélo, hein. Il y a énormément de vélotourisme, de cyclotourisme.
Alors oui, la clientèle, la principale clientèle de la zone, Sud-Drôme, c'est vrai aussi pour l'Ardèche, ce sont les Belges, les Hollandais, et puis après, les Allemands, les Suisses, etc. Mais les Belges et les Hollandais représentent une part de clientèle très importante. Les Danois, enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers. C'est à peu près un tiers des visiteurs.
Venez nous rejoindre dans la vallée d'Annonce avec Jean-Jacques Montpessin et moi. Nous deux, on parle une langue.
Édouard.
Oui.
Et est-ce qu'il y a toujours ce festival à Grignan qui est pas le... Parce qu'il y a plein de festivals.
Le festival de Grignan de correspondance, il y a toujours ça. Oui, bien sûr, je crois.
Il y a plein de festivals dans
l'ancienne maison de Madame de Sévigné. Oui. Ça dépend de vous, ça ou pas?
Non, mais j'en parle volontiers.
Et voilà, on en parle volontiers. Vous y êtes allé à Tmen faire
des lectures? J'y ai joué à Marivaux.
Alors, longtemps. Vous y avez joué mal, mais longtemps.
Longtemps.
Merci. Salut.
7h, 9h, plus près de toi.
On retrouve François Rollin pour le fameux jeu de François Rollin qui est appelé d'après son nom.
Mais
François,
un grand jeu ce matin, Edouard.
Grand jeu ce matin, c'est un jeu ambitieux, j'ai l'impression.
Oui, et c'est un jeu surtout qui est doté d'un prix, parce que je sais que les auditeurs en ont par-dessus la tête de ces jeux passionnants auxquels on ne gagne rien.
C'est vrai.
Donc ce matin, le gagnant gagnera un an de prison dans la même cellule qu'Edouard Baird. Si toutefois Edouard est condamné à la prison, ce que je ne peux pas garantir à l'heure qu'il est, mais qui pourrait bien lui arriver en raison des mauvais traitements qu'il fait subir à un ami à moi, un ressortissant franco-algérien du nom d'Atmen K. Alors tout de suite le jeu, nous sommes ce matin le 6 juin, que s'est-il passé un 6 juin? Il y a quatre questions, qui veut jouer avec moi?
Moi.
Alors, il y a quelqu'un au hasard là qui vient. Bonjour, monsieur.
Alors, bonjour, monsieur.
Bonjour.
Première question. Le 6 juin 1599, un grand peintre espagnol est né. S'agit-il de 1. Diego Velázquez, 2. Duke Ellington.
Duke Ellington.
Velázquez.
Très bien, monsieur. 200 ans plus tard, le 6 juin 1799, un grand écrivain russe est né. S'agit-il de Alexandre Pouchkine ou Cyril Lignac ?
Pouchkine. Pouchkine.
Très bien. Le 6 juin 1956, un grand joueur de tennis est né. S'agit-il de 1. Björn Borg, 2. Jean-Yves Le Drian ?
Björn Borg, le Suédois.
Attends, ouais, plus difficile quand même.
C'est quatrième difficile. Et dernière question. Le 6 juin 1944, qu'ont fait les troupes alliées en Normandie ? 1. Elles ont planté des choux. 2. Elles ont débarqué, comme le raconte Jean-Jacques Vannier dans son chef-d'œuvre « L'envol du pingouin » qui se joue ce soir même à l'Olympia de Paris.
Je pense qu'ils ont débarqué.
Eh bien, c'est gagné, monsieur. Bravo. Quel est votre nom ?
Atmenka, Benkelif.
C'est Atmen, mais enfin, ça va pas la tête, Atmen. T'as entendu ce qu'on gagne ? T'es mazo ou quoi ? Quand t'es pas mazo, je crois surtout que t'es con, Atmen. T'es con, tiens, prends ce gifle. Prends ce coup de bâton. Tiens, retourne dans ton cachot. Tiens, un garçon, mais qui est idiot, ce gars. Edouard, vous entendez comme des...
C'est dommage d'en arriver là. Merci, François. Encore un jeu qui a pratiqué l'entre-soi, puisqu'aucun outil de réel auditeur n'a été pris. C'est vraiment un jeu hors sol qui représente le pire de ces années.
Si j'avais su, je serais pas bien.
Le pire de ces années à Nouna.
Salut, merci beaucoup. Des Gérard.
Merci à Atmen aussi, Marie Misset, Armel et Jeunie qui sont avec moi ici à Nyons. On sera donc là pendant 2 semaines, ici avec le meilleur de la région, qu'on vous amènera dans notre maison pour le petit déjeuner. Et puis, au plaisir de vous retrouver demain avec Thierry Paret, tous les amis. Salut, à demain.
Salut.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.